Nous allons commencer dans la prière. Seigneur, merci de ce temps que nous pouvons encore consacrer à écouter ta parole, à la méditer. Nous avons, Seigneur, besoin de ton esprit pour nous éclairer, parce que sans ton esprit, Seigneur, il ne sera pas possible de savoir, de recevoir efficacement ce que tu veux nous dire, parce que ta parole n'est pas un simple livre, c'est une parole vivante. C'est par ta parole, Seigneur, que tu te révèles à nous et que tu puisses aujourd'hui, Seigneur, aussi ouvrir nos cœurs afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions recevoir efficacement, afin que nous puissions aussi appliquer dans notre vie de tous les jours, Seigneur, cette parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, et dirige-nous les uns les autres par ton Esprit Saint, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, l'Église a vécu une semaine particulière, dernièrement, qui s'est déroulée donc du 8 au 15 avril. Alors, il y a eu des activités qui ont été organisées afin de mettre les gens en contact avec le message de l'Évangile, mais aussi afin de mieux faire connaître notre assemblée, l'Église de Palaiseau. En tout cas, j'étais régulièrement au courant de ce qui se passait avec Nyarinsu qui était là, et je vous remercie aussi d'avoir pris soin, pour celles et ceux qui ont pris soin, un soin particulier de Nyarinsu qui était resté seul ici. En tout cas, j'étais toujours au courant. Et nous sommes encouragés à porter en prière tout ce qui a été semé, un temps soit peu. Parce que notre rôle, c'est de semer, notre rôle, c'est d'arroser. Et la parole dit que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui agit dans les cœurs par son esprit afin de faire fructifier ce qui a été semé. Alors pour ce dimanche matin, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter une méditation axée sur nos motivations. Quelles sont nos motivations en tant que chrétiens? Nos motivations dans les tâches que le Seigneur nous appelle à accomplir pour son service, que ce soit dans le cadre de l'Église locale, nous aussi, dans la vie de tous les jours. Dans notre vie de chrétien, qu'est-ce qui nous motive? Et je vous propose ainsi de considérer l'apôtre Paul, encore une fois. L'apôtre Paul qui était un évangéliste exemplaire, infatigable. Pour lui, implanter des églises, créer des églises, c'était non seulement une vocation, mais aussi une priorité vraiment dans sa vie. Il avait dit: malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Donc c'est dire qu'il était vraiment, c'était dans son, on va dire dans son ADN, que le Seigneur avait mis en lui. Et il a précisé aussi en quoi consiste mon salaire: dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. Il disait ça dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Merci pour l'eau. Autrement dit, Paul avait été appelé à prêcher l'Évangile de manière tout à fait désintéressée, sauf par le souci de gagner des âmes à Christ. Et donc, je vous invite à lire un passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, nous allons lire les 12 versets, les 12 premiers versets. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 12. Pour cela, j'ai choisi la version Semeur. Vous-même, frères, vous le savez aussi. L'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. Nous venions juste d'être maltraités, insultés à Philippe, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer, au milieu d'une grande opposition, la bonne nouvelle qui vient de lui. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur ou que nous aurions des motifs malhonnêtes ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile. Et nous l'annonçons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui juge nos cœurs. Jamais, vous le savez, Nous n'avons cherché, nous avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres. Alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise, tout en travaillant de nos mains jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons annoncé la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous, qui croyez, d'une manière pure, juste et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors nous allons arrêter là notre lecture de ce matin. Et j'aimerais quand même dire quelques mots de contexte par rapport à cette épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc c'est lors de son deuxième voyage missionnaire que Paul a écrit cette lettre. Il était accompagné, semble-t-il, de Silas et aussi probablement de Timothée. Et ils sont arrivés donc dans cette ville de Thessalonique qui est située en Grèce. On estime donc à l'époque vers les années 50 après Jésus-Christ. Et on peut voir dans Actes chapitre 17 le passage donc de Paul et ses compagnons dans cette ville. Un passage d'une durée assez courte parce qu'ils étaient pourchassés par certains chefs religieux qui étaient jaloux, non pas de la jalousie de Dieu, mais de la jalousie humaine. Ils étaient jaloux du succès de la prédication de l'Évangile qui est apporté par Paul. Et le passage que nous venons de lire est quelque part une explication, une affirmation des motivations de Paul par rapport à sa prédication de l'Évangile. C'est un passage qui nous éclaire sur les raisons pour lesquelles il prêchait ce message de la bonne nouvelle. Pour lui, ce qui importait, pour Paul, ce qui importait, c'était d'abord de plaire à Dieu, avant toute chose. D'être agréable à Dieu, de ne pas rechercher l'approbation des hommes. Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile, dit-il au verset 4 qu'on vient de lire, et nous vous l'annonçons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu. Et justement, le thème de ce matin, c'est plaire à Dieu ou plaire aux hommes, donc sous forme d'une question. Nous allons essayer de répondre à cette question, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La réponse semble évidente, n'est-ce pas? Mais néanmoins, nous allons quand même développer ce thème ce matin. Alors, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité? Il semble que depuis toujours, l'être humain cherche à avoir une place dans la société, n'est-ce pas? Et c'est normal, on cherche toujours sa place dans la société, et voilà, c'est quelque chose qui est naturel. Et cependant, il y a peut-être parfois, même souvent, une tendance à rechercher la popularité. Une tendance à rechercher à être reconnu, à être approuvé. Ça fait du bien, à commencer par moi. J'aime bien quand quelqu'un vient un peu me donner des compliments, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Et c'est un phénomène qui se voit dans tous les domaines de la société, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan politique même, et sur le plan familial. Sur le plan professionnel, j'ai un petit témoignage à vous donner. Du temps où je travaillais dans une société à Madagascar, une société séculière, il y a une vingtaine d'années, un jour mon patron, à l'époque, m'avait dit « Si tu veux réussir dans ta vie professionnelle, il faut commencer par avoir de bonnes relations dans le monde du business. » Oui. Et j'ai demandé « Mais comment ?» Il a dit « Il faut essayer d'intégrer des associations, des clubs de service, en essayant de te faire remarquer, d'avoir une démarche de charme, afin que les gens aient une bonne opinion de toi, afin qu'ils soient impressionnés. Et le jour où tu en auras besoin d'eux, bah, si tu as bien accompli ton opération, eh bien, ils se souviendront de toi et les portes s'ouvriront facilement. Vous voyez un peu jusqu'où ça va. Et c'est vrai, hein, c'est dans le milieu professionnel, bah, les gens, ce qu'ils font, c'est voilà, essayer de se faire remarquer pour obtenir les bonnes grâces de la direction. Alors moi, je n'ai pas personnellement suivi ce conseil, mais cela montre bien la réalité de notre société. Espèce d'entité dominée par la volonté de séduire, de plaire. Et d'ailleurs, dans les écoles de commerce, hein, on apprend comment séduire, comment acquérir la confiance du client, comment être attractif, comment être un winner, un gagnant, etc. Voilà, tout est basé un peu sur le fait de se développer, faire ce développement personnel afin de toucher les gens, afin de plaire aux gens. Alors, ça, c'est sur le plan professionnel dans ce monde, et bien sur le plan politique aussi, bon. Je crois que tout le monde le sait, le voit. On essaie de plaire à son électorat. Et ça ne date pas d'hier. Dans Actes chapitre 12, verset 1 à 3, on voit que le roi Hérode avait fait emprisonner Pierre, il avait fait tuer par l'épée Jacques, un des apôtres aussi. Et pourquoi l'a-t-il fait? La parole dit qu'il a fait tout cela afin de plaire aux Juifs. Il voulait être agréable aux hommes, il voulait soigner son image, sa réputation et s'approprier les bonnes grâces du peuple. Alors sur le plan familial aussi, même dans nos familles, les enfants, vous savez, ils comprennent très vite comment plaire à papa et à maman. Et ce n'est pas dans un but désintéressé habituellement, surtout à partir d'un certain âge. Quand votre enfant vous fait une opération de charme, quelque part derrière, il y a des intentions. En fait, l'homme aime bien que les autres s'intéressent à lui. Voilà, ça c'est un constat. On aime bien plaire plaire aux autres, qu'on soit non chrétien ou même chrétien. Et quand on regarde dans nos. Oups, là j'ai oublié quelque chose. Quand on regarde dans nos églises, et là je vais revenir à notre texte de ce matin, lors de son passage à Thessalonique, l'apôtre Paul avait certainement été accusé par les chefs religieux de vouloir tromper le peuple par ses prédications dans des buts malhonnêtes. Et justement, Paul s'en défend, et je vous rappelle ce passage qu'on vient de lire. Hop, pardon. Excusez-moi, hein, parfois il y a un problème technique. Voilà ce qu'on venait de lire. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus que par d'autres. Pas plus par vous que par d'autres. Alors quand on regarde ces deux versets, versets 5 et 6, on voit qu'il y a trois motivations à éviter. Trois mauvaises motivation à éviter. D'abord, la séduction. Quand nous sommes dans l'église, quelles sont nos motivations? Est-ce que nous voulons séduire? Il y a certains responsables d'église qui mettent un soin particulier à préparer leurs interventions, que ce soit la prédication, que ce soit l'étude biblique, les autres prestations orales, et ils font spécialement attention à la technique. On appelle ça la technique rhétorique, à la diction, ils soignent particulièrement leur apparence physique et ils choisissent pas au hasard leur tenue vestimentaire, etc., etc. Théoriquement, rien de mal à cela. Je me verrais mal prêcher le dimanche matin avec des haillons ou prêcher alors que je ne suis pas lavé pendant un mois. Ouais. Vous comprenez? Donc ça, c'est tout à fait, il y a rien de mal. Mais le danger menace quand on se sert de tout cela comme des armes de séduction, afin de rendre le message de l'Évangile plus attractif ou plus persuasif. Quand nous voulons gagner quelqu'un à notre cause, nous pouvons être tentés de modifier ou d'embellir notre message, ou encore de recourir à la flatterie afin de le rendre plus acceptable. C'est une tentation. Mais l'apôtre Paul, lui, n'a jamais varié d'un iota le contenu de l'Évangile. Il n'a jamais altéré la vérité de la bonne nouvelle. Il n'a jamais affirmé que le Seigneur Jésus, par exemple, était la solution à tous les problèmes de santé, tous les problèmes d'argent, tous les problèmes sentimentaux. En tout cas, peut-être que j'ai mal cherché dans la Bible, je crois qu'il n'y a aucun message qui parle de ça. L'apôtre Paul n'a jamais non plus cherché à soigner son apparence physique ou travailler sa technique oratoire pour plaire à son auditoire. Certes, il s'est parfois adapté à son auditoire, mais il n'a pas cherché d'artifice, comme beaucoup de Grecs le faisaient à l'époque. Alors moi, personnellement, si quelqu'un, après la prédication de ce matin, vient me voir en formulant des appréciations sous la forme de flatterie dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, sur ma coupe de cheveux, cela devrait m'inciter à la plus grande prudence, parce qu'il est facile de se laisser griser par les compliments. Alors, s'il vous plaît, de grâce, ne vous lancez pas dans ces types de remarques vis-à-vis des prédicateurs du dimanche matin, parce que ça peut être dangereux. Rien de plus dangereux, en effet, pour le serviteur de Dieu que de se laisser flatter son ego. Car même inconsciemment, il pourrait basculer dans le piège de l'orgueil et avoir la tentation d'exploiter son charisme à des mauvaises fins. Et justement, la deuxième mauvaise motivation, c'est l'exploitation, parce qu'on est c'est facile de passer de la séduction à l'exploitation. Il y a des chrétiens qui recherchent à servir Dieu dans leur église, peut-être de manière sincère, au départ, mais qui deviennent petit à petit préoccupés par le fait de développer une certaine popularité. Ce sont en général des personnes qui ont un certain don, un certain charisme, et quand ils constatent petit à petit qu'ils ont une influence sur les gens, quand ils se rendent compte qu'ils exercent une fascination sur l'assemblée, c'est souvent le début des dérapages dans les églises. On commence à faire valoir des idées, parfois des idées qui s'écartent de la saine doctrine, et certains d'ailleurs ont entraîné une partie de l'église avec eux, pour constituer un groupe à part, même une secte, et en devenir quelque part le gourou. Et c'est ainsi que des personnalités charismatiques sont arrivées à séduire tout un groupe de personnes dans les églises, un groupe de personnes qui est devenu entièrement soumis. Et je pense particulièrement à un certain Jim Jones. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du révérend Jim Jones, en 1978. Un révérend américain d'obédience évangélique au départ, mais qui, à cause de son charisme particulier, a réussi à entraîner plus de 900 personnes dans un suicide collectif. C'était en Guyane. Faites des recherches, et c'est fou, hein, le pouvoir de séduction, où ça peut entraîner. Il n'y a pas si longtemps aussi, dans les années 30, hein, l'avènement d'un certain Hitler, qui avait un charisme particulier, qui a entraîné tout un peuple dans une horreur. Exploitation. Il y a peut-être des personnes qui ont cette tentation d'exploiter leur charisme, d'exploiter leur don et d'exploiter les gens. Il y a aussi cette motivation d'être applaudi par les hommes. C'est un peu lié tout ça, n'est-ce pas? Mais ça peut être une réalité. Dans une église que nous fréquentions avant, il y a une vingtaine d'années, je me souviens d'une dame qui faisait partie de la chorale ou du groupe de chantre. Une sœur qui avait un talent indéniable et qui chantait très très bien. Mais pendant la louange ou pendant la chorale, elle faisait absolument tout pour que sa voix se distingue par rapport aux autres. Elle chantait beaucoup plus fort que les autres. Et on voyait tout de suite, là, qu'il y avait une volonté vraiment de montrer, moi je chante bien. Et voilà, c'est une question à se poser par rapport à ça. Est-ce que notre but dans la chorale, c'est de chanter mieux que mon voisin d'à côté? Est-ce que le but dans le groupe de louanges, c'est d'épater la galerie? Paul dit dans Galates au chapitre 1, verset 10, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. » Quel est notre objectif? Être applaudi par les hommes? Signer des autographes? Ou être approuvé d'abord par Dieu? C'est une question que nous devons nous poser, et moi en premier. Alors, avoir tendance à plaire aux hommes n'arrive pas que dans la vie d'église. Ça peut arriver aussi dans la vie quotidienne du chrétien, et il arrive que les chrétiens authentiques, afin de ne pas être mal vus par des amis, ils soient tentés de dissimuler leur foi quand ils changent de milieu. J'appelle cela la foi à géométrie variable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Voilà, quand on veut garder nos amis, on dit non, on ne parle pas de notre foi parce qu'on pourrait les perdre. Je connais personnellement une famille chrétienne qui avouait que quand elle invitait des gens à manger, que ces gens n'étaient pas chrétiens, même s'ils avaient l'habitude de rendre grâce avant chaque repas, et bien quand il y avait des amis non chrétiens, dit non, on préfère ne pas rendre grâce, de peur de gâcher notre amitié avec ces personnes. Alors, je ne dis pas que ce sont tous les chrétiens qui le font, heureusement, mais ça peut arriver. Ils ont certainement leur raison, hein, mais c'est simplement pour dire qu'il arrive que des chrétiens préfèrent d'abord être bien vus par les hommes, quitte à dissimuler leur foi, quitte à mettre leur foi dans un tiroir, et ça arrive aussi avec les jeunes, pour rester en bon terme avec la bande de copains ou la bande de copines, on est tenté de ranger momentanément nos convictions chrétiennes. Il y a une petite histoire d'un jeune bûcheron qui habitait au Canada et qui devait aller faire un stage dans le village voisin, un village qui était réputé pour ses idées anti-chrétiennes. Et donc ce jeune bûcheron était chrétien ainsi que sa famille, et ses parents lui ont dit « Écoute, tu vas aller faire ton stage dans ce village, mais voilà, garde bien ta foi, reste un témoin quoi qu'il arrive. » Et donc le jeune homme, un peu craintif, est quand même parti faire son stage dans ce village. Il est resté 2-3 mois, et en revenant, ses parents ont dit « Alors comment ça s'est passé hein ?» Sachant que ce village était un village anti-chrétien, pratiquement, il dit « Ah, ça s'est très très bien passé, personne n'a jamais su que j'étais chrétien. » Et donc pour plaire aux gens, pour s'intégrer, la première chose à faire pour lui, c'était de ne pas parler de sa foi. Et ça me fait penser à ce passage dans Jean, chapitre 12, versets 42-43, qui dit « Parmi les dirigeants, beaucoup crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. » La question ce matin, c'est de nous demander qu'est-ce que nous recherchons dans notre vie de chrétien, quand nous prêchons l'Évangile, quand nous vivons notre vie de chrétien de tous les jours. Est-ce que c'est pour plaire d'abord aux hommes ou pour plaire d'abord à Dieu? Alors, en conclusion de ce message, sous forme de question encore, comment être agréable au Seigneur? Alors, je vais me baser sur le passage qu'on a lu ce matin, qui dit, au contraire, pendant que nous étions parmi vous, versets 7 et 8 donc, nous étions pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Alors, cette affirmation de l'apôtre Paul, donc, parce que là, avant cela, il affirmait justement qu'il ne voulait pas plaire aux hommes, mais à Dieu. Il a dit « au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons fait une démonstration d'amour ». Et là, d'ailleurs, ce qu'on voit là, c'est vraiment une description poignante, émouvante, d'amour, de tendresse, de douceur et d'effacement de soi. Alors, si nous voulons être agréables au Seigneur, frères et sœurs, la première chose à faire, c'est de revoir nos motivations en tant que chrétiens et cultiver l'effacement de soi-même au profit des autres et contribuer à leur édification en Christ. En un mot, c'est l'amour. Un passage qui dit que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain, non pas pour rechercher son approbation, rechercher à plaire, mais pour le bien de celui-ci, afin de l'aider à grandir dans la foi. Mais aimer les autres n'est pas possible si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur. Et là, je reviens un peu à la première partie de ce culte où Clément parlait d'amour. Aimer les autres, ce n'est pas possible si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur. Quand quelqu'un avait demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, vous savez ce qu'il a répondu? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et après, il dit, voici ce qui vient juste après. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont liés. Aimer Dieu et aimer le prochain sont deux choses qui sont liées. Il ajoute aussi, il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est dans Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Alors, nous voulons être agréables à Dieu dans le ministère qu'il nous a confié. Alors, commençons par l'aimer de tout notre cœur d'abord. Et demandons-lui de nous donner un cœur qui aime notre prochain. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Donne-moi ton cœur, Seigneur, que je puisse avoir ton cœur aussi. Un cœur qui aime notre prochain. Un cœur plein de douceur pour les autres. Si chacun dans notre Église, nous développons les fruits de l'amour, les fruits de la bienveillance, la douceur, eh bien les résultats ne tarderont pas à se manifester dans notre Église. Nous serons ainsi une Église qui progresse dans la sainteté et qui fera honneur au Seigneur. Quelles sont nos motivations dans l'Église? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Si nous voulons plaire à Dieu, frères et sœurs, eh bien recherchons d'abord à aimer Dieu de tout notre cœur. Comme ça, nous pourrons développer également l'amour les uns pour les autres. Il est souhaitable que chacun aussi recherche à se rabaisser. Alors ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai oublié. Voilà, se rabaisser, pardon. Hop, voilà. Nous rabaisser nous-mêmes et élever Christ. Jean-Baptiste avait dit, peut-être que vous vous souvenez de ce passage, où il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Peut-être... On a peut-être tendance à dire, ben moi, il faut que je croisse dans l'Église, il faut que je sois quelqu'un d'important, d'abord dans l'Église. C'est une tentation aussi. En fait, c'est Christ qui devrait croître d'abord en nous. Il est souhaitable que chaque membre de l'Église, frères et sœurs, ait à cœur de s'engager activement dans l'Assemblée, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, il est important de sonder nos intentions. Est-ce pour servir les intérêts du Seigneur ou est-ce que c'est pour servir nos intérêts? Ce sont des questions importantes parce qu'il est facile de glisser dans un piège. Où est mon intérêt dans cette église? Si je n'ai pas d'intérêt, je m'en vais. Il y a des personnes qui viennent pour essayer d'avoir les bonnes grâces des autres. Et c'est bien d'avoir une communion fraternelle, n'est-ce pas? Mais quand on recherche d'abord à être reconnu dans son église, c'est là le danger. Nous ne nous trompons pas de cible. Parce qu'il est possible de s'engager dans le service pour Dieu pour diverses raisons qui ne sont pas toutes bonnes ou pures. Et si nous le faisons avec de mauvaises motivations, ce sera toute l'œuvre du Christ qui va en pâtir, qui va souffrir. Si nous entrons dans un ministère, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau des visites des malades, de l'accueil, du ménage, de l'entretien logistique, du soutien technique, etc., de la distribution des tracts, de l'accompagnement musical, choral, faisons-le par amour pour Christ et pour les autres, sans rechercher l'approbation des hommes, mais en recherchant d'abord l'approbation de Dieu. Servir dans l'Église pour l'intérêt des autres, oui. Mais pour ses propres intérêts, non. Participer aux activités d'église dans le but de gagner des âmes à Christ, oui. Ou d'édifier son prochain, oui. Mais pour montrer ses talents, ou pour montrer son savoir-faire, ou montrer qu'on est doué, non. Considérons le Seigneur Jésus qui doit être notre modèle par excellence. Le Seigneur Jésus n'a jamais recherché à plaire aux hommes. Lui-même, d'ailleurs, n'avait pas d'apparence... qui pouvait plaire. Hein. Dans Ésaïe au chapitre 53, la parole dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards sur le plan physique. Et pourtant, il était toujours suivi d'une grande foule parce que les gens étaient touchés par la bonne nouvelle, les gens étaient touchés par son amour et sa compassion pour eux. Et le Seigneur Jésus ne cherchait pas, quand il faisait des miracles, il ne cherchait pas à épater la foule, à épater la galerie, il ne cherchait pas à mettre plein les yeux, mais il faisait simplement la volonté de son Père. Rien d'autre. Et il a dit d'ailleurs, celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, son Père, est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Qu'en est-il de nous ce matin? La seule motivation de notre Seigneur était de rester dépendant de son Père, alors que nous puissions nous aussi rechercher avant tout à être agréable à notre Père céleste dans notre vie quotidienne, notre vie chrétienne, que ce soit au sein de notre église locale ou à l'extérieur, dans notre famille. Et je terminerai avec ce passage, dans Colossiens chapitre 3, verset 23, qui dit « Tout ce que vous faites, Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Prions. Seigneur, nous nous rendons compte que bien des fois, nous avons eu tendance à plaire d'abord aux hommes, à rechercher l'approbation de l'homme, plutôt que de chercher à te plaire en premier. Te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons fait preuve plus d'orgueil, ou que nous voulions, Seigneur, nous distinguer dans l'Église ou ailleurs. Nous voulions nous attirer d'abord les bonnes grâces des hommes. Seigneur, aide-nous par ton esprit à rechercher d'abord ton royaume, rechercher d'abord à te plaire, rechercher à faire, Seigneur, ce qui est bon à tes yeux, avec l'aide de ton Esprit Saint, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Que nous puissions, Seigneur, être agréables dans notre vie, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles aussi. Merci, Seigneur, de nous diriger dans ce sens. Et que nous puissions prendre modèle aussi sur toi, Seigneur Jésus. Un modèle d'humilité, un modèle de simplicité, un modèle de désintéressement. Seigneur, toi, tu nous as sauvés par grâce, uniquement par grâce. Il n'y avait aucun intérêt pour toi de le faire, mais simplement par grâce, Seigneur, tu as voulu nous sauver de nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle. Merci encore pour tout cela. Dans le nom de Jésus. Amen.